Des amours malades, chapitre 11. Je n'arrivais pas à ôter de mon esprit les images de la salle d'endoscopie, ni certaines phrases de Leroy. « Veux-tu que je te cite le meilleur, voyons. Aimer de cette manière n'est pas une bonne façon d'aimer. C'est toi qui as besoin d'aide. Ils sont convaincus de mériter ce qui leur arrive. Tu en veux d'autres, Alexandre ? Je suis persuadée qu'elle t'en plaît infiniment. Il est très fort, c'est le roi. Dommage qu'il soit pédiatre. Selon toi, c'est le père ou la mère ? Et le verre, qu'en dis-tu ? Tu crois que quelqu'un le lui a fait manger, n'est-ce pas ? C'est aussi mon avis. Et cette langue, on aurait dit... » Je ne pus me réfugier dans mon bureau car Julia vint à ma rencontre dès que je mis les pieds dans le service. Les examens de Kevin empiraient de minute en minute malgré le traitement mis en route. La seule solution était la dialyse. J'appelai le néphrologue et il tomba d'accord avec moi. Julia tint à m'accompagner auprès de l'adolescent afin que nous lui apprenions ensemble la triste nouvelle. L'interne m'indiquait un couple assis dans le petit salon ouvert qui jouxtait la salle des infirmières et qui accueillait les parents ou les amis qui rendaient visite à leurs malades. Le père et la mère de Kevin. Julia me confia qu'elle avait respecté le vouloir du jeune et n'avait pas autorisé les parents à entrer dans la chambre. Elle les avait mis au courant de la situation tout en laissant en suspens la question du suicide. Kevin avait besoin de toute son énergie afin de lutter pour sa vie. Il ne pouvait pas se permettre de gaspiller ses forces pour convaincre ses parents de la justesse de ses idées. Tout cela était sans doute éthiquement critiquable, mais ce qui m'importait pour le moment était la santé de Kevin. Quand il irait mieux, alors, il affronterait le problème de son homosexualité sur des bases que Michael, un psychiatre, un ami, ou moi-même aurions pu l'aider à construire. Julia me demanda si je voulais avertir les parents que Kevin allait être transféré en dialyse. Vu mon état, il était impensable que je me mette à discuter avec ces deux-là. Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais que vous leur parliez. Ce n'est pas de la lâcheté, je vous assure, mais... Je ne finis pas ma phrase. Julia me dévisagea. « Vous vous sentez bien, monsieur ? » demanda-t-elle avec inquiétude alors qu'elle posait une main sur mon bras. « J'ai eu des jours meilleurs, confessai-je en m'efforçant de sourire. « Je m'en occupe, soyez tranquille, me rassura Julia. « Je vous remercie. Allons voir Kevin. » Nous organisâmes donc le transfert du jeune homme dans le service de néphrologie où je tins à l'accompagner moi-même. Je n'ai pas besoin d'adresser la parole aux parents et j'en suis infiniment gré à Julia. De retour en médecine, je décidai d'effectuer la contre-visite car il était tard. J'avais hâte de rentrer chez moi, j'étais épuisée. Je sursautais au moindre bruit, mon cœur s'emballait de temps à autre et je sentais ces extrasystoles mourir dans ma gorge. Tout cela ne me disait rien qui vaille. Je n'avais pas revu Michael depuis qu'il était sorti en claquant la porte, se dirigeant en théorie vers la chambre de Kevin. J'ignorais en fait s'il y était réellement parvenu. Je savais qu'à présent il se trouvait à l'école d'infirmières à dispenser un cours sur les transfusions. Je voulus commencer mon tour par M. Perret, mais la chambre était vide. Il était allé passer une radiographie des poumons que j'avais demandé au matin. J'attendrai donc. Il n'y avait pas de gros problèmes, fort heureusement, et ma visite finie, je m'arrêtai dans la salle des infirmières pour me préparer un café au percolateur. Je fus rejoint par deux IDE qui m'imitèrent. Michael apparut enfin. Il portait encore son blouson et balançait de son bras droit une serviette de cuir qu'il lâcha sans précaution en arrivant près de nous. Il salua à la ronde, mais ne m'adressa aucun mot en particulier. Il se plaignit de ses élèves, une promotion infernale à ses dires. Il avait pourtant de la patience, mais il faut croire que sa journée avait été aussi épouvantable que la mienne. Je repensai aux événements saillants de ce jour infernal et me rendis compte que beaucoup avaient été provoqués par un amour malade. Un vieillard battu par son fils, un enfant battu par son père, un adolescent poussé au suicide par des parents qui croyaient ne vouloir que son bien, un gay passé à tabac par l'amant de son amant. Allez, continue ! Aimer de cette manière, je soupirai si fort que tous les regards convergèrent vers moi. Pour éviter les commentaires, je déclarai que j'allais voir M. Perret, puis que je rentrerai chez moi. Arrivé à la chambre du vieil homme, je frappai et poussai la porte. Mon instinct professionnel eut raison de mes nerfs ébranlés. Je ressortis immédiatement. « 403, urgence !» hurlai-je. Puis je me précipitai de nouveau dans la pièce. Louis Perret gisait les pieds à terre, la tête à 1,30 m du sol, le cou scié par les fils du téléphone mural. Sa langue démateuse passait entre ses dents. Son visage avait la couleur du ciel de ses 18h30, un bleu foncé tirant au violet. Je me rendis compte qu'il était mort et que rien de ce que nous aurions pu tenter ne lui aurait redonné la vie. Les infirmières étaient entrées avec le chariot des urgences, suivi de Michael qui jura en allemand. J'avais, par acquis de conscience, posé mon stéthoscope sur le torse du vieillard, mais aucun son n'y résonnait. Le décrocher était inutile, et la police préférait dans ces cas-là que l'on ne touche à rien. S'il y avait eu le moindre espoir, je me serais moqué des procédures. Mais je savais que Louis Perret ne serait plus jamais malmené par qui que ce soit, et que ses outils d'ébéniste resteraient attachés à leurs clous. Je restais les bras ballants, avec la sensation qu'une digue venait de se rompre en moi. Dans un suprême effort, je donnai l'ordre d'appeler la police, puis je sortis comme un automate. J'entendais Michael me parler, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Sans m'occuper des mots qu'il prononçait, je lui demandai d'attendre les autorités. Moi, j'allais dans mon bureau prévenir la famille. Michael voulut me retenir par le bras, mais je me libérai. La conversation avec le fils fut très courte et très formelle. Puis, ce que la digue ne retenait plus à présent me submergea. Je poussai un hurlement de bête et commençai à balayer d'une main rageuse tout ce qui se trouvait sur mon bureau. Je renversai mon fauteuil à coups de pied, je frappai de mes poings la vitre fermée. Je tournai sur moi-même et ramassai mon vidal dans lequel j'avais trébuché et le lançai violemment contre la porte. Je ne parvenais pas à respirer et l'air en sortant de ma bouche faisait un cri rauque. Je sentais ma salive couler au coin de mes lèvres. Elle avait le goût de la bile vomie peu de temps auparavant. Je tombai à quatre pattes et battis plusieurs fois mon front contre le linoléum. Puis je reculai et me blottis dans un angle de la pièce sous la fenêtre. J'embrassai mes genoux et commençai à me balancer. C'est à ce moment-là qu'entra Michael. Je l'entendis murmurer mon prénom d'une voix affolée, puis le son d'une clé que l'on tournait dans une serrure m'arriva à étouffer. Michael s'approcha de moi lentement. Il m'appela, mit une main sur mon épaule et m'appela encore. Je me dégageai brusquement. « Ne me touche pas. Personne ne doit me toucher. »« Alexandre. » Il est mort. Tu as vu, il est mort. Il a de la chance. Il a réussi, lui, pas comme moi. Pourquoi ne suis-je pas mort, moi aussi? Je fixai à présent Michael, qui, les yeux éperdus d'angoisse, m'observait sans comprendre. Je me levai en le repoussant brutalement. Assis sur ses talons, il fut déséquilibré par mon cou et tomba. Il se releva prestement, alors que j'arrachais avec désespoir les boutons de ma chemise. Je l'ôtai et je la jetai à terre. Je criffai mon maillot de corps avec une telle violence que je réussis à l'arracher. Puis, j'indiquai à Michael l'étoile sous mon mamelon gauche, celle qu'il avait caressée avec tant de douceur le soir de l'orage. « Tu sais ce que c'est? Tu le sais? C'est un coup de revolver. Mais je ne suis pas très douée, moi. Au lieu d'un cercueil, ça m'a valu 2 mois de réanimation. Pas même capable de mettre fin à ces jours. Je ne suis même pas capable de ça. » Michael me saisit par les bras. Je voyais ses larmes. Les miennes n'arrivaient pas. Peut-être si j'avais pu pleurer, la sensation d'étouffement aurait diminué. Mais de cela aussi j'étais incapable. Michael me tira à lui en chuchotant des paroles rassurantes. Il me caressait les cheveux, me berçait doucement. « Nous allons sortir d'ici, Alexandre. Je t'emmène chez moi, et là nous parlerons, veux-tu ?» Son ton n'était ni celui qu'on emploie avec un malade mental, ni celui que l'on prend en s'adressant à un enfant. Je n'aurais toléré ni l'un ni l'autre. C'était le ton rassurant d'un ami, que ton sœur préoccupe, mais qui t'assure qu'il a la solution et que tout rentrera dans l'ordre rapidement. Il fallait que je puisse croire que tout rentrerait dans l'ordre, mais pour l'heure, il n'existait plus aucun ordre, aucune raison de croire à quoi ou à qui que ce soit, aucune raison de vivre. Je n'avais plus de force à me laisser vêtir. Les boutons de la chemise avaient roulé sur le lino et Michael se contenta d'enfiler les pans dans mes pantalons. Il me mit ma veste et mon pardessus et me guida hors du bureau. Il me tint par le bras alors que nous rejoignions en silence le parking. Je trébuchai plusieurs fois et mon ami me retint. Arrivé chez lui, il me retira mon manteau puis me fit asseoir sur le divan. « Je te prépare un café. »« Où veux-tu quelque chose de plus fort ?» me demanda-t-il alors qu'il parlait pour la première fois depuis que nous avions quitté l'hôpital. « Un café, » répondis-je d'une voix enrouée. Ma rage était tombée. La sensation de mort imminente, non. J'aurais préféré que Michael ne s'en aille pas. Heureusement, il revint très vite. Nous buvîmes le café en silence, assis l'un à côté de l'autre. « Tu bois le café qu'il t'a préparé? Tu es vraiment secoué, Alexandre ?» Michael ne me quittait pas des yeux. Il reprit la parole. J'étais infecte aujourd'hui. Je ne pensais qu'à moi, qu'à mes petits problèmes. Je ne me suis pas rendu compte que tu avais besoin de moi. Je m'en veux terriblement. Je t'ai dit des choses idiotes et méchantes. Je n'ai pas compris combien tu souffrais. Julia m'a dit qu'elle t'avait trouvé bizarre, mais je ne lui ai pas prêté attention. Je suis impardonnable. J'aimerais que tu me racontes, Alexandre. Mais il faut que tu aies confiance en moi. Il faut que tu te laisses aller, sans quoi rien ne changera. Et apparemment, tu as un grand besoin que les choses changent. Michael avait pris une serviette en papier qu'il avait tirée d'une boîte décorative placée sur la table basse. M'enleva mes lunettes et commença à nettoyer mon visage de la sueur et de la salive qui le barbouillaient. Puis il se pencha vers moi et m'embrassa. Son baiser était moins chaste qu'à l'ordinaire. Il avait mis une main derrière ma nuque et m'avait attiré jusqu'à lui. Puis au lieu de déposer l'habituel papillon au coin de ma bouche, ses lèvres couvrirent les miennes qui tressaillirent. Nous sursautâmes au bruit de la sonnette. Michael caressa ma joue en se levant, puis disparut dans le hall d'entrée. Je ne voyais pas son interlocuteur, mais j'entendais sa voix. « Nous avions rendez-vous à 7h30. Pourquoi n'es-tu pas passé me prendre ?» La voix était aiguë et pleurnicharde. « J'ai eu des problèmes à l'hôpital, » expliqua patiemment Michael. « Eh bien, tu es rentré à présent, non? Qu'est-ce que tu attends? Habille-toi. » « Je ne sors pas ce soir, Sébastien, j'ai affaire. »« Affaire? Ça veut dire quoi ?»« Simplement que je dois travailler. »« Tu es avec quelqu'un, c'est cela ?»« Avec la personne avec laquelle je dois travailler. » Sébastien dut pousser Michael de côté pour entrer dans la pièce principale. « C'est lui? Tu dois travailler avec lui ?» grinça le jeune homme dégingandé qui venait d'entrer et pointait un index tremblant dans ma direction. « J'imagine votre travail. Il est plutôt brouillon. D'ordinaire, tu fais mieux les choses. Regarde sa chemise. Sébastien, va-t'en, s'il te plaît. Il aurait dû te tabasser plus fort, Robbie. C'est tout ce que tu mérites. Je croyais que tu avais meilleur goût. Il est moche, ton type. Il est vieux et en plus il louche. Quelle pitié. Ne pense pas de te jeter à mes pieds pour me récupérer. Je ne veux plus te voir. » Sur ce, Sébastien sortit d'un air offensé. Michael referma la porte et revint vers moi. Je m'étais levée, je voulais partir. Je l'avais contraint à rompre avec son amant et cela n'améliorait pas mon déjà profond sentiment de culpabilité. « Tu penses aller où comme cela ?» m'interrogea Michael qui se plaça devant moi. « À la maison, tu avais un rendez-vous. » « Mais ne dis pas de bêtises. » « J'aurais rompu de toute façon. Je n'ai pas l'intention de me faire taper dessus tous les soirs. »« Voilà un homme raisonnable !» Michael essaya de remettre de l'ordre dans mes vêtements. Il me poussa avec douceur sur le divan et me passa un bras autour des épaules. Il appuya sa tempe contre ma tempe et murmura. « Aussi difficile que parler puisse te sembler, garder le secret le sera plus encore. » De sa main libre, il frôlait ma cuisse, dessinant de légers allers-retours. Ce contact finit d'exaspérer mes sens et je m'écroulai. Je cachai ma tête au creux de son cou et susurrai. « Je suis un homme battu. » Je sentis que Michael inspirait profondément avant de parler. « Tu veux dire que Laurent te frappe ?» demanda-t-il incrédule en détachant les syllabes. Je relevai la tête abasourdi. « Laurent ? Oh non ! Non, pas Laurent ! Ma femme me battait. Léa me battait. Tu as employé le présent, Alexandre. Tu as dit « je suis un homme battu ». C'est parce que je me sens encore comme cela aujourd'hui. Même après 4 ans de veuvage, même après un suicide raté, je sens encore les coups, les humiliations, la douleur physique et morale. Je les sens encore tous les jours, Micha, tous les jours. Il n'y a pas un instant qu'un geste, un mot ne me ramène à ces années, pas une seconde où je puisse me libérer de ce fardeau. Je n'en peux plus, Micha, je n'en peux plus. Finalement. 15 années de silence rompues en quelques secondes provoquèrent en moi l'effet d'une explosion. J'eus la sensation qu'une onde violente envahissait mon cerveau, se propageant peu à peu dans tout mon corps, bouleversant l'équilibre précaire dans lequel je le maintenais, brisant les murs que j'y avais érigés, détruisant les subterfuges dont j'avais jusqu'à présent vécu. Quand l'onde arriva au bout de mes doigts, je m'agrippai violemment à Michael et j'éclatai en sanglots. Des années de sécheresse se mutèrent en une saison de mousson dévastatrice. Mes pleurs étaient aussi douloureux que libérateurs. J'étais à la fois soulagée d'avoir enfin confessé mon calvaire, mais devoir faire face à cette nouvelle condition me terrorisait. Être battue par sa femme et en supporter plus ou moins bien les conséquences est une chose. Avouer l'être ou l'avoir été en est une autre. Tu as fait le premier pas, Alexandre. Je suis fière de toi. Je n'étais pas certain d'être à la hauteur de cette épreuve. Je me calmais peu à peu sous les caresses de Micha. Je n'avais pas le courage de quitter ses bras et encore moins celui de le regarder en face. Ce fut lui qui s'éloigna imperceptiblement de moi. Il prit mon visage dans ses mains et déposa ses papillons sur mes yeux. Mes lunettes avaient disparu une fois encore. Sur mon nez, mes joues et mes lèvres, il caressait mon front, essuyait mes larmes alors que les siennes roulaient, libres et abondantes. Il me serra à nouveau contre lui et nous restâmes ainsi très longtemps. Michael brisa à nouveau le silence quand nos larmes semblèrent taries. « Tu penses pouvoir m'en parler à présent ?»« Je crois, oui. Mais je doute fort de réussir à tout te raconter en une seule fois. C'est au-dessus de mes forces. »« Non, bien sûr. Tu le feras quand tu en auras envie, quand tu te sentiras assez calme. »« Oui. Je suppose que la journée d'aujourd'hui a aidé à faire tout exploser. Celle d'hier aussi. » Quand je pense à ce que je t'ai dit sur le suicide, Seigneur. Alexandre, tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Les traces que tu portes sur les poignets, qui t'a fait cela? C'est un accident, un simple accident. Hier au soir, Laurent et moi avons eu une discussion. Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il voulait rencontrer un psychiatre. Mais avant de me dire cela, il a eu un accès de colère à cause d'une chose qu'il aurait voulu que je fasse et que je n'ai pas faite. Il m'a pris les poignets et les a serrés tellement fort que... Laurent est violent avec toi? « Non, non, il ne l'a jamais été. Pas avec moi, du moins. Je t'expliquerai. Simplement, comme tu as pu comprendre hier, Maïté, sous certains aspects, ressemble étrangement à la mère de Laurent, et il en était aussi bouleversé que moi. C'est très dur pour lui de vivre avec un père comme moi, je crois. Je pense au contraire qu'il t'aime énormément et qu'il reste avec toi pour te protéger. Il devrait vivre sa vie. Ne l'as-tu pas protégé lorsqu'il était enfant? Je crois plutôt que je lui ai gâché sa vie. Tu es trop sévère avec toi. Le rôle d'un enfant n'est pas de protéger son père. Cette nuit, nous avons dormi dans le même lit. Deux noyés accrochés au même radeau. Et Quentin? La troisième génération touchée par Léa. Tu ne t'es jamais adressé à personne pour demander de l'aide? Quelle aide? Je n'avais pas besoin d'aide. J'ai géré ma vie comme j'ai pu et j'ai limité les dégâts. Tu crois? Je ne sais plus, Micha, je ne sais plus. À certains moments, je me dis que je ne pouvais rien faire d'autre, et parfois, j'ai l'impression d'avoir détruit ma vie, celle de ma femme, de mon fils, et aussi celle de mon petit-fils. Alexandre, tu es sans force. Je crois qu'il est préférable que nous arrêtions cette discussion. Nous la reprendrons quand tu voudras. Je n'ai pas appelé Laurent, il va s'inquiéter si je rentre trop tard. Appelle-le, et je te reconduis chez toi. Laisse ta voiture à l'hôpital, je passerai te prendre demain matin. À partir de cette soirée, je narrai à Michael mon passé. Il m'écouta comme personne ne m'aurait écouté par la suite, et je lui dois ma vie.